Attends, c'est du verre quoi? Du verre canard?
Si vous voulez, le verre des verres correspond, comme par hasard, au verre de l'islam.
Ou un verre sapin?
Bonsoir, Michel Sapin.
Verre émeraude. Ou peut-être verre bouteille.
Il n'y a plus rien à boire.
Du verre pomme? Ah, je sais. Verre kaki.
Calme! Et calmez-vous!
Non, non, je vois. Je sais.
Je voudrais d'abord que vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir.
Mais attendez, vous, non, vous trouvez ça normal?
C'est du verre
douteur!
Allez-vous cultiver scientifiquement!
Non, mais je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème.
Retrait, climat, même combat.
Bonjour, c'est Lucie, je suis journaliste indépendante en Bretagne et chaque mois sur Canal B, Radio Boa et Deezer, je vous parle d'écologie pendant une heure. Un programme un peu comme un porte-voix pour mettre en lumière celles et ceux, chercheurs, citoyens, élus ou encore médias, qui font vivre les transitions écologiques et sociales en mode déter. Et alors que le sujet recule dans les médias, eh bien on continue à en parler dans les médias indépendants, ici à l'antenne d'une radio associative. Actualité, interview, reportage, mais aussi ressources, agenda et musique. C'est le programme de Vers des Terres qui, agenda politique oblige, se cale sur l'entre-deux-tours des élections municipales pour cette émission donc du mois de mars. Le tout sans mettre en avant de candidats, parce que sinon il fallait tous les inviter. Et non merci. Le seul programme qu'on va donc recevoir au micro, c'est celui à partisans de la transition écologique, même si on sait bien honnêtement quel parti s'y intéresse, et un programme défendu dans cette émission par des chercheurs et acteurs associatifs. C'est parti. Et pour commencer, on va faire un tour chez Bon Pote pour l'info du jour. Bon Pote, c'est ce média indépendant financé par ses lecteurs et qui travaille dur en ce moment pour informer sur les enjeux des élections municipales sous l'angle climatique. Un petit outil, Ville Future, permet ainsi, dès la page d'accueil, de découvrir si vos candidats et candidates sont à la hauteur en la matière. Il y a des liens vers les programmes, les résultats du premier tour évidemment, mais aussi le recensement de ces brebis galeuses lorsque des faits délictueux ont été documentés. Antisémitisme, homophobie ou encore corruption. On y trouve également, à travers cet outil, des suggestions de questions adressées directement à vos candidats, candidates et adaptées aux enjeux climatiques locaux. Parmi les nombreux articles publiés ces dernières semaines sur Bon Pote dans le dossier élections municipales, on rappelle que le second tour a lieu dimanche prochain, le 22 mars, je voulais en mettre un en avant. Faut-il débattre d'écologie avec l'extrême droite? C'est la question posée par le journaliste Thibaut Shepman. Le point de départ à ce questionnement, c'est ce choix que font certains défenseurs de l'écologie, comme Hugo Clément, qui a débattu avec Jordan Bardella sur la scène d'un événement organisé par Valeurs Actuelles en 2023, ou plus récemment, le think tank des Shifters, rendu célèbre par Jean-Marc Jancovici, l'ingénieur, et qui a donc invité Sarah Knafo, candidate sans étiquette, mais en vraie reconquête. Ça, c'était dans un débat en vue donc des élections municipales. L'article, il est à retrouver en libre accès sur le site bonpote.com. Je vous résume la réponse en quelques mots, quelques phrases. De nombreuses ressources philosophiques comme historiques et les prises de position de personnalités des sciences climatiques convergent sur le risque de débattre avec l'extrême droite. En effet, l'argument de vouloir la combattre sur le terrain du débat rationnel et puis celui de ne pas vouloir mépriser son électorat sont décrits comme naïfs par Aurélien Mondon, professeur de politique à l'université de Bath. On ne remporte pas un débat sur l'écologie face au Rassemblement national ou à Reconquête, je cite, un domaine dans lequel l'extrême droite s'est fait une spécialité de désinformer. Par contre, cette stratégie, elle semble bel et bien participer à la normalisation de discours à la nature intrinsèquement antidémocratique, ça c'est aussi une citation, et à accompagner la progression de ces partis dans les urnes ces 20 dernières années. S'il faut rester très prudent avec les analogies historiques, le journaliste de Bon Pote rappelle à travers les mots d'Olivier Manoni, c'est le traducteur d'Hitler, sacré métier, et spécialiste du fascisme, ce dernier rappelle qu'Adolf Hitler s'est lui-même, je cite, « servi de façon préméditée et organisée de la presse, y compris internationale, en choisissant soigneusement ses interlocuteurs pour améliorer son image et cacher ses intentions réelles. » Tiens, tiens. Donc si on résume, débattre écologie et maintenir le lien avec des proches qui votent pour l'extrême droite, ça oui, même si on l'imagine, ça peut être douloureux. Tendre son micro aux représentants des partis d'extrême droite, ça c'est non.
Avez-vous des questions supplémentaires ?
Non.
Allez, on passe à l'interview du jour et on part, je vais vous faire voyager, on part du côté de Besançon dans l'est de la France. Julien Azuara et Laura Henkel, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Je vous présente Julien, vous êtes maître de conférence en écologie végétale à l'université Marie et Louis Pasteur du côté de Besançon, au sein d'un laboratoire qui s'appelle Chrono Environnement. Et Laura, vous êtes ingénieur de recherche dans ce même laboratoire qui a eu l'idée de monter un collectif dont on va parler dans cet échange, un collectif apolitique, c'est important de le préciser, qui réunit des chercheurs au sein de cette université avec une mission, interpeller les candidats aux élections municipales de ce territoire, en particulier sur les questions de transition écologique. Alors, Grand Besançon Métropole, puisque c'est le territoire que vous interpellez là, en ce moment, ce sont 67 communes. On est dans le département du Doubs, à l'est de la France, pas très très loin de la Suisse, pour vraiment donner l'image aux auditeurs qui sont plutôt bretons, je pense, ceux qui nous écoutent en ce moment. Je voulais commencer par vous demander quelles étaient un peu les spécificités à mettre en avant sur ces enjeux de transition écologique sur le territoire où vous vivez et où vous travaillez en tant que chercheur.
Alors, juste par rapport à la présentation que vous faisiez du collectif, c'est vrai que c'est comme ça que l'avait présenté l'Est républicain. On n'est pas tout à fait un collectif apolitique au sens où notre démarche, elle est vraiment politique. C'est-à-dire qu'on est en contexte quand même de campagne électorale. Donc, par contre, elle est apartisane. On a vraiment un positionnement politique au sens où le sens de la politique, c'est se mêler des choses de la cité. Donc, on voulait faire entendre la voix. C'était important pour nous
de le repréciser.
Parce qu'on voulait montrer qu'on pouvait être aussi des chercheurs objectifs, mais en même temps, on pouvait ne pas se désintéresser complètement des questions politiques, à savoir notamment les questions des élections et des politiques publiques qui pourront être mises en place. Donc voilà. Alors, les enjeux les plus importants, en tout cas ceux qu'on a eu le temps d'identifier dans le laps de temps dans lequel on s'est organisé, qui était assez court, on a des enjeux qui sont bien sûr forcément sur le climat, mais ça c'est un enjeu qui est global, mais à Besançon et comme partout ailleurs sur la planète, le climat se réchauffe, on a des problèmes de canicule, ça a aussi induit beaucoup de sécheresse. En fait, il faut savoir qu'on est sur un territoire qui est essentiellement karstique, même ultra majoritairement karstique, c'est-à-dire des roches calcaires. Donc, il y a finalement beaucoup d'infiltration. Donc, même si on est une région plutôt pluvieuse, finalement, il y a énormément d'eau qui s'infiltre, il y a assez peu de réserves et de nappes. Et ça fait qu'en fait, en été, on est très vite en situation de sécheresse. Et ça, c'est vraiment accentué par l'augmentation des températures, puisque sur les dernières décennies, la consommation d'eau est plutôt stable sur la région. Les pluviométries est plutôt stable, voire même légèrement en hausse. Et pourtant, on a des sécheresses de plus en plus marquées, de plus en plus récurrentes. L'autre spécificité de cette géologie karstique, ça fait qu'on a beaucoup d'infiltration très très vite des polluants. Et donc, que ce soit les effluents, les polluants d'origine agricole ou les polluants d'origine industrielle ou autre, tout ça, ça va assez rapidement dans les nappes. Donc on a aussi des masses d'eau superficielles et souterraines qui connaissent des problèmes de pollution, alors qu'ils ne sont pas critiques pour l'instant, au sens où il y a assez peu de communes dans lesquelles on peut ne pas consommer l'eau, notamment à Besançon et dans le Grand Besançon, il n'y en a pas, on reste en deçà des limites, mais par contre à Besançon par exemple on a des PFAS, on a des pesticides et on a des nitrates dans l'eau de la ville, même si c'est à des seuils inférieurs. Et on a des enjeux forcément de biodiversité comme de partout, à savoir on a des taux d'espèces en danger qui peuvent être assez importants. Un groupe le plus touché dans la région c'est les oiseaux, 40% des oiseaux nicheurs de Franche-Comté qui sont menacés, on va dire au sens large.
Vous avez un peu résumé l'ensemble de ces enjeux qu'on peut retrouver en ligne sous la forme d'un schéma. Et je donne tout de suite le site internet où on peut vous retrouver, mobilisation-esr, pour enseignement supérieur et recherche-franche-comté.fr. Je me demandais comment s'était monté ce projet de collectif de chercheurs, de chercheuses, pour donc interpeller les candidats aux élections municipales sur le sujet de la transition écologique. On imagine que vous avez déjà une surcharge de travail importante. C'est quelque chose qui s'est fait un peu dans l'urgence, je crois, sur la fin d'année dernière, c'est ça ?
Disons que c'est parti de notre. Nous avons eu une assemblée générale du laboratoire où nous sommes tous retrouvés pour faire aussi un petit bilan de fin d'année. Et au fur et à mesure des discussions, on s'est rendu compte qu'il y avait un mécontentement qui était assez grandissant chez les chercheurs, notamment le sentiment de ne pas être pris en compte, de ne pas être entendu par les politiques, que ça soit voilà essentiellement au niveau national, mais ça peut aussi être le cas à l'échelle locale. Et il y avait vraiment une volonté de finalement de diffuser un peu les connaissances scientifiques pour l'aide à la décision et puis porter à connaissance ces connaissances scientifiques aux élus dans le contexte justement des élections municipales. Donc ça nous semblait important aussi que les scientifiques aussi se mobilisent dans le cadre de ces élections, prennent la parole et viennent ramener sur le devant de la table un certain nombre de questions sur l'écologie notamment.
Est-ce que ça avait déjà eu lieu lors de précédentes élections municipales ou d'autres types d'élections d'ailleurs ? Est-ce que vous avez peut-être pu voir ce type d'initiative ailleurs sur le territoire ou est-ce que ce sont finalement de nouvelles façons de faire et d'alerter et de défendre la recherche et la transition écologique qui sont peut-être en train de se développer ?
Alors, à Besançon et dans le Grand Besançon même et même dans la région, a priori, c'est assez inédit. Il y avait déjà eu des mobilisations scientifiques sur des points précis, mais plutôt sous forme de tribune, en tout cas pas dans un contexte d'élection et pas dans un contexte aussi, alors on ne peut pas dire massif parce qu'on n'est pas si nombreux que ça, mais là on est quand même 80 scientifiques, on est 10 laboratoires différents, donc ce côté quand même avec beaucoup de monde, de beaucoup de spécialités différentes. Et pas seulement les sciences de l'environnement. Oui, ça, pour la région, c'était assez inédit, surtout dans un contexte d'élection. Après, à plus large échelle, on n'a pas trouvé beaucoup d'autres exemples similaires. Maintenant, il y a quand même, à mon sens, hein, une tendance générale du monde scientifique vers plus d'engagement ces dernières années, notamment à travers des collectifs comme Scientifiques en Rébellion, avec des chercheurs et des chercheuses qui s'investissent de plus en plus dans les aspects politiques. Donc je pense que ça s'inscrit aussi dans cette dynamique-là, clairement.
Et c'est vrai que de ces derniers temps, il y a eu aussi une réaction au contexte national avec un certain nombre de scientifiques aussi qui sont mobilisés contre la loi du plomb notamment. Et ça a permis justement que les scientifiques prennent la parole et essayent de... Voilà, il y a eu des tribunes qui ont été publiées de médecins, de scientifiques. Et donc, en fait, notre démarche s'inscrit aussi dans la continuité un peu de tout ça et de porter aussi à connaissance, aussi à l'échelle locale, des problématiques qu'on a dans notre région, dans ce contexte des municipales.
Il y a aussi le fait que c'est vrai qu'en science, jusqu'à présent, jusqu'à ces dernières années, il y avait une culture militante assez faible, en tout cas dans nos spécialités, notamment en sciences de l'environnement. Et là, le contexte national, les prises de position, les différentes tribunes, comme le disait Laura, où on est vraiment dans cette continuité-là, a permis aussi, pour certains d'entre nous qui étaient un peu plus sensibles à ces questions d'engagement politique en sciences, d'arriver à toucher des collègues qui, jusqu'à présent, pensaient que c'était pas forcément leur rôle d'aller vers ce type de mobilisation. Et du coup, c'est vrai que ça nous a pas mal aidé à mobiliser les collègues et à emmener du monde avec nous, quoi.
Vous êtes donc environ 80 scientifiques là réunis dans ce collectif pour interpeller les candidats aux élections municipales sur ce qu'ils proposent en matière de transition écologique. 80 scientifiques pour une vingtaine de spécialités, donc certains qui travaillent dans les domaines de la chimie, de la physique, de la géologie, de l'archéologie ou encore de la sociologie. Vous venez un peu de le dire, mais je l'avais également lu dans un article de France 3. Certaines forces politiques tournent le dos à la communauté scientifique, voire la décrédibilise, c'était des mots de certains membres, je ne sais pas si c'était vous, mais de votre collectif qu'on retrouvait au micro d'un journaliste. Je me demandais comment ça se matérialisait, ce sentiment de ne pas être écouté. Est-ce que ça se passe avec des échanges sur le territoire avec des hommes ou des femmes politiques? Est-ce que c'est aussi peut-être dans le traitement médiatique que vous voyez du sujet, peut-être aussi dans vos médias locaux?
Je pense que la façon dont ça se matérialise le plus, c'est le fait qu'on nous ignore, tout simplement. Par exemple, ça a été la stratégie là, pendant notre mobilisation. Autant la liste menée par Séverine Véziès. Donc la France Insoumise nous a répondu une semaine et demie, deux semaines. La liste de la maire sortante, qui est une liste divers gauche, pareil, nous a accusé réception assez rapidement à notre deuxième relance, puis ensuite a vraiment joué le jeu. Autant du côté des partis de droite, malheureusement, ça a été beaucoup plus difficile d'obtenir des réponses. Et en fait, il n'y en a qu'un qui a répondu, c'est la liste des divers droites qui est menée par le républicain Ludovic Fagot. Et il a fallu vraiment attendre le dernier moment, il a fallu qu'on fasse de multiples relances pour qu'au dernier moment, et finalement, ils se sentent un peu obligés de se manifester. Et ça, c'est vrai que du coup, derrière, en dehors du fait que voilà, on nous ait répondu, ce qu'on a produit finalement a été assez peu repris, voire même pas du tout repris dans les débats entre candidats, dans les discussions et dans le débat public en général. Enfin, en dehors des articles que la presse locale nous a accordés à notre demande, quand on les a sollicités, ils ont bien répondu présent. Par contre, dans le traitement général des élections, et peut-être l'exemple le plus flagrant de ça, c'est que quand on a fait notre conférence de presse pour communiquer sur les réponses des candidats. Donc il y a plusieurs médias locaux et régionaux qui sont venus. On est passé effectivement à France 3 Région à la télé. Et ce même jour, en fait, en une des journaux dans lesquels on avait nos articles, les articles, en fait, c'était des articles sur la question de la sécurité, par exemple. Donc en fait, il n'y a pas d'opposition vraiment frontale. En tout cas, pour l'instant, nous, on n'a pas vécu ça d'élus qui viendraient carrément nous dire que ce qu'on fait c'est scandaleux ou que ce qu'on raconte c'est n'importe quoi. Voilà, les gens évitent un petit peu la confrontation avec nous en suivant plutôt la stratégie qui est de nous ignorer et de nous invisibiliser aussi. Hein. Je pense qu'il y a un petit peu de ça derrière. Quoi. C'est-à-dire que si ils évitent les interactions avec nous, forcément ça nous donne aussi moins de visibilité.
Et ce qui rejoint peut-être aussi la dynamique, on parle depuis un moment de climato-scepticisme, mais il y a aussi ce terme qui émerge de climato-relativisme et où il n'est plus question de dire que le changement climatique, ça n'existe pas, mais par contre, dans une forme un peu moins, j'allais dire, directe, de relativiser les effets de ce changement climatique en cours. Je précise qu'on discute dans l'entre-deux-tours des élections municipales et qu'à Besançon, la maire sortante, divers gauche est devancée par le candidat Les Républicains. Elle a d'ores et déjà annoncé cette candidate s'allier avec je crois que c'est une candidate pour la France Insoumise au second tour pour s'opposer, je cite, à un projet qui aggrave les fractures sociales, économiques et qui est écologiquement irresponsable. Pour continuer à parler de votre démarche, avant le premier tour, vous avez en fait posé une question simple aux candidats et candidates des 67 communes de la métropole de Besançon. Quelles mesures souhaiteriez-vous mettre en avant en matière de transition écologique, sociale et solidaire ? Vous l'avez dit, du côté de Besançon, il y a en fait deux partis qui ne vous ont simplement pas répondu, à savoir la liste Horizon et celle du Rassemblement National. On ne l'a pas encore dit, mais à l'échelle de la métropole, le nombre de répondants a là aussi été assez faible, je crois.
Oui, donc la Grand Besançon, c'est 67 communes en comptant Besançon. Et alors, dernière nouvelle, du coup maintenant le premier tour étant passé, on a eu finalement oui assez peu de réponses, hein, c'est moins d'une dizaine, donc une toute petite minorité de communes qui nous ont répondu dans les petites communes de l'agglomération. On tenait vraiment à les solliciter parce que il y a beaucoup de choses en matière d'environnement qui ne vont pas se décider à l'échelle même de chaque commune, mais à l'échelle de l'agglomération. Donc ça nous paraissait finalement assez peu pertinent d'interroger par exemple que les candidats pour la mairie de Besançon, même si c'est quand même la principale métropole, puisque en fait toutes les autres communes sont concernées et la prise de décision elle se fait vraiment entre toutes les communes. Maintenant c'est vrai que les enjeux ne sont pas les mêmes sur l'immense majorité de ces communes. Hein. On est sur des listes uniques où il n'y a même pas forcément de campagne hein, dans certaines communes. Il n'y a pas de réunion publique, enfin voilà, toutes les mairies finalement et toutes les listes de ces communes-là, quand il y a une liste unique, ne font même pas forcément campagne. Et il y a aussi des échos qu'on a eu par rapport à ça qui sont finalement des listes qui ne sont pas forcément défavorables à notre démarche, mais comme il n'y a pas d'enjeux électoraux au sens où c'est une liste unique et qu'il n'y a pas de liste concurrente, Ils préfèrent ne pas se fâcher avec aucun administré de leur commune parce que, voilà, des fois, quand on parle de transition écologique, sociale et solidaire, ça peut crisper un petit peu certaines personnes. Donc, ils évitent aussi de se positionner. Et puis, peut-être le dernier point qui fait qu'on a eu assez peu de réponses, c'est que, voilà, contacter toutes ces listes, ça a été compliqué. Donc, on n'a pas pu les contacter toutes directement. On est passé par les mairies. Et des fois, je pense que le message n'est pas forcément passé aussi.
Alors, là où vous avez eu des réponses, donc essentiellement pour la ville de Besançon, avec les réponses des candidats, candidates La France Insoumise, Les Républicains et donc la liste d'hiver gauche, je crois qu'elle est Europe Écologie Les Verts, je ne dis pas de bêtises, la maire sortante.
Anne Vigneault, la maire sortante, est Europe Écologie Les Verts et elle est alliée au Parti communiste et au Parti socialiste pour cette liste d'hiver gauche.
Donc ces listes qui vous ont répondu, on va les retrouver en liste pour un second tour le week-end prochain. En fait, les réponses, vous les avez schématisées afin de mesurer l'équilibre entre l'attention portée à la fois à la question de l'eau, de la biodiversité, du climat et de la justice sociale. Votre idée, c'est de dire que ces différents pôles sont interdépendants. Et on peut retrouver en fait le bilan de ce que propose chaque liste sur le site internet que j'ai déjà mentionné. Je voulais quand même essayer de donner des exemples de mesures concrètes et auxquelles les maires devraient songer pour accélérer la transition écologique et sociale à l'échelle des villes et des communes. Ça permet de dire qu'on est loin de l'écologie punitive, concept qui est souvent mis en avant par les détracteurs de la transition écologique.
Bah, disons que dans les réponses qu'on a reçues entre les différents candidats, toutes ne sont pas aussi équilibrées. Nous, on avait effectivement présenter notre travail sous trois axes, l'axe de l'eau, du climat, biodiversité et un peu au milieu la justice sociale. Donc si on analyse effectivement les propositions des différents candidats, certaines sont assez déséquilibrées, on va dire, selon ces différents aspects.
Par rapport à cette question aussi de l'écologie, justement montrer que la transition écologique, sociale et solidaire, c'est pas le cliché que voudrait renvoyer pas mal de gens sur cette notion, moi, que j'aime pas du tout, hein, mais voilà, dont on parle malgré tout dans les médias d'écologie punitive. Et dans les propositions qu'il y a, il y a par exemple des propositions sur les listes plutôt à gauche de l'échiquier politique, comme la sécurité sociale de l'alimentation, ou le fait que va améliorer la qualité des captages en eau en négociant et en discutant avec le milieu agricole. Voilà, tout ça, on est sur des choses qui touchent directement à la santé, qui touchent directement à la façon dont les gens peuvent se nourrir. On est, a priori, moi, d'après moi, pas du tout dans de l'écologie punitive, mais vraiment améliorer la qualité de vie des gens, hein, tout simplement, dans leur environnement, quoi. Et des propositions comme ça, on avait mis un point d'honneur à les mettre en avant, c'est-à-dire qu'on a essayer de recentrer les problématiques de la crise écologique à l'échelle locale pour vraiment pouvoir interpeller les élus sur des choses concrètes. Et on a voulu leur mettre en exemple des propositions concrètes aussi de politique publique à l'échelle municipale pour montrer que voilà, ils pouvaient faire quelque chose. Et c'est vrai que dans les réponses qu'on a reçues, on retrouve un certain nombre de ces propositions. Ça peut être aussi quelque chose dont on parle beaucoup dans la campagne un peu partout en France, la gratuité des transports publics. Hein. C'est-à-dire, privilégier mobilité douce, c'est bien, mais les rendre accessibles à tout le monde, c'est aussi une question de justice sociale et ça peut que faciliter et rendre plus acceptable la transition écologique.
Dans les solutions qu'on a mis en avant aussi, l'idée, c'était d'avoir des solutions qui répondent non seulement à des objectifs sur l'écologie, la biodiversité, le climat, la justice sociale. L'idée, c'était pas de cloisonner les thématiques, c'est-à-dire de pas avoir une réponse qui serait purement sur des aspects écologiques, mais qui mette de côté totalement les aspects justice sociale ou les aspects climatiques. De même, on peut pas apporter des réponses qui traiteraient seulement de l'aspect climatique sans prendre en compte les autres aspects, par exemple la biodiversité, etc. Donc, ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est plutôt des solutions qui permettent d'avoir un bon compromis, de valoriser un peu tous ces aspects-là. Par exemple, sur l'agriculture biologique, non seulement on va pouvoir protéger les sols, la biodiversité, et ça va avoir des impacts sur l'alimentation, la qualité, la santé publique, etc. Donc, c'est des mesures qui sont assez transversales finalement et qui vont toucher un certain nombre de réponses, tant d'un point de vue social, écologique, climatique, et qui ne sont pas effectivement dans ce qu'on pourrait qualifier d'écologie punitive.
Voilà, on a vraiment voulu mettre cette question à justice au centre parce que sans ça, En fait, on ne peut pas protéger les personnes qui sont les plus vulnérables, parce que finalement, toutes les études montrent que c'est les personnes les plus fragiles dans notre société, que ce soit économiquement, parlant ou autre, qui sont impactées en premier, par, la crise écologique. Et en plus, on ne peut pas rendre une politique publique acceptable si, il n'y a pas un minimum de justice sociale dedans. Il y a aussi pas mal d'études qui ont montré ça. Et on a voulu vraiment mettre ça à l'intersection de tout.
Je donne quelques autres exemples. Le développement des pistes cyclables, l'amélioration des réseaux d'eau potable et d'assainissement, l'isolation des bâtiments publics, le développement des commerces de proximité. En fait, oui, d'avoir près de chez soi sans avoir à se déplacer très loin pour faire ses achats ou avoir besoin d'un service, c'est lié à la transition écologique et sociale. Autant de propositions qu'on peut retrouver en ligne sur le site internet que vous avez lancé pour l'occasion. Et puis peut-être, ça peut être aussi le début de dialogue là, pour les auditeurs qui nous écoutent, d'aller questionner leurs futurs élus qui seront élus la semaine prochaine sur le développement de telles propositions. Ma dernière question, c'était de vous demander, parce que vous avez organisé des rencontres débats, il y a eu ce point presse, il y avait vraiment une volonté de dialoguer autour là, de votre initiative. Je me demandais si vous aviez peut-être eu des retours de candidats, de candidates convaincus par la transition écologique, mais quand même aussi sous une certaine pression, notamment financière en ce moment, au niveau des collectivités locales, avec des difficultés à aller financer ces grands chantiers que sont la rénovation des bâtiments publics, l'amélioration des réseaux d'eau potable, etc.
Pas dans les retours qu'on a eus, ça n'a pas été soulevé. Après, c'est vrai que finalement, on a eu assez peu d'interactions directes et de dialogues avec les listes elles-mêmes, à l'exception près de la liste d'hiver gauche d'Anne Vigneault, où il y a un membre de la liste qui est venu à une de nos réunions publiques. Nous, c'est des aspects qu'on n'avait pas forcément mis en avant, parce que dans notre collectif, on n'avait pas non plus les compétences pour juger en termes financiers ou même juridiques. Hein. Des fois, il y a aussi des contraintes juridiques à vouloir mettre certaines politiques en place. Donc c'est des choses sur lesquelles nous on était finalement assez peu compétents, donc c'est des choses qu'on n'a pas soulevées et on n'a pas eu forcément de retour par rapport à ça. Par contre c'est des choses par ailleurs qui ont été évoquées effectivement dans la campagne, notamment je sais que les différents candidats se sont pas mal étriés sur les finances de la ville de Besançon et comment est-ce qu'on peut financer les politiques publiques en général, même pas que la transition écologique. Voilà.
J'en profite pour glisser là donc le fait que la dotation globale de fonctionnement en collectivité territoriale a récemment été gelée, puis qu'il y a aussi ce fonds vert qui aidait grandement les collectivités locales à financer des projets de transition écologique, qui a été grandement réduite. Ça a été annoncé à l'occasion du vote sur le dernier budget au niveau de l'État. Julien Azuara et Laura Henkel, donc du laboratoire Cro Environnement. Vous êtes tous les deux membres de ce collectif d'universitaires qui cherche donc à interpeller les candidats, candidates aux élections municipales du côté de Besançon dans l'Est de la France. Merci beaucoup à tous les deux.
Ben, merci à vous pour l'intérêt que
merci
vous portez
à vous.
Aujourd'hui déjà, on ne parle pas trop, on évoque. On tourne autour du pot, on évite, on n'a pas les mots. Aujourd'hui déjà, on se joue du violon. On dit oui pour ne pas dire non. On sourit, mais l'œil en dit long. Sera comment l'avenir? Quoi sera mieux, quoi sera pire? Sera comment l'avenir qui nous attire? Aujourd'hui déjà, on ne touche pas, ça casse, on prend pas dans les bras, on embrasse les mains derrière le dos. Aujourd'hui déjà, on ne voit ni loin, ni haut, ni mal, ni bien, ni beau, alors on tend les mains. On agite un drapeau. Sera comment l'avenir? Quoi sera mieux, quoi sera pire, sera comment l'avenir, qui saura dire, sera comment l'avenir, quoi sera mieux, quoi sera pire, sera comment l'avenir, qui nous attire. Aujourd'hui je sais, je prédis, rien n'est impossible, je le sais, même le passé est imprévisible.
Vous écoutez Vers des Terres sur Canal B, Radio Boa ou peut-être en podcast sur Deezer. À l'instant, Avenir d'Albin de la Simone, c'est un titre à retrouver sur l'album Les 100 prochaines années qui est sorti en 2023. On continue à parler écologie et élections municipales dans Vers des Terres. Pour ceux qui sont passés à côté, le premier tour organisé dimanche 15 mars a vu le Rassemblement national progresser et la France insoumise réaliser une percée. C'est résumé comme ça par France 24. On peut aussi dire que les partis traditionnels ont résisté à divers endroits. Il faut quand même souligner le fort taux d'abstention qui atteint 42%. Et aujourd'hui, eh bien, il reste surtout de grandes incertitudes qui seront levées dimanche prochain, en sachant que l'entre-deux tours est toujours un moment de négociation avec là des alliances à gauche en dépit des réticences socialistes. C'est le titre d'un article de Mediapart qu'on vous encourage toujours à aller lire, à vous abonner si vous le pouvez. Et l'écologie dans tout ça ? Eh bien, absent du débat, selon Libération cette fois. Les villes et les communes sont pourtant une échelle où la transition écologique peut être travaillée de manière concrète et les objectifs climatiques pour atteindre la neutralité carbone en 2050, est-ce qu'on y croit encore ? Ces objectifs impliquent en tout cas un plus grand engagement des municipalités. On va écouter une association qui veut pousser les candidats et candidates à s'engager plus fortement pour la transition écologique et sociale à travers un pacte. C'est Alternatiba à Rennes qui organisait une soirée notamment autour de ce thème dans un bar rennais le jeudi 19 mars. Au menu, arpentage mais aussi concours de quiche. Ça c'est pour les ambiances sonores. Allez, c'est parti.
Alors là, les futuristes, ils disent que, entre autres, la crise démocratique, en fait, c'est davantage une crise de l'écoute. Que le problème, il vient pas des citoyens, mais c'est des institutions et des élus qui n'écoutent pas, quoi.
Alors ce soir, on est à La Bascule, qui est un bar associatif avec une histoire assez riche aussi, pour un pré-événement du Village des Possibles. C'est un arpentage. Un arpentage, c'est qu'on partage un livre et on essaye de chacun lire une partie et d'en faire un retour soit subjectif ou soit objectif, ça dépend de son envie, pour qu'à la fin, en fait, on ait tous partagé suffisamment de connaissances pour avoir l'impression d'avoir lu le livre, ce qui est quand même assez rare dans un monde où on lit de moins en moins, où c'est de plus en plus dur de trouver du temps. Et le livre, c'est pour en finir avec la démocratie participative. C'est un regard un peu critique sur les processus de démocratie participative et les différents trucs qui sont mis en place dans les villes. Et est-ce que c'est vraiment la solution pour résoudre toute la crise démocratique qu'il peut y avoir en France ou ailleurs ?
Les auteurs ?
Manon Loisel et Nicolas Rio, font de l'accompagnement aux collectivités, justement sur les processus de démocratie et sur comment essayer de retrouver la parole citoyenne. Du coup, moi, je suis Oumaïma, je suis membre d'Alternatiba depuis 2018 et je suis bénévole, du coup, au groupe local d'Alternatiba. Alternatiba étant une association de lutte contre le changement climatique et pour la justice sociale, qui est présente, du coup, en France, mais aussi en Haïti beaucoup, en Suisse aussi, et qui promeut les alternatives, fait du plaidoyer à tous les échelons administratifs, mais aussi fait des actions de désobéissance civile. Sur Rennes, on est entre 15 et 20, après ça fluctue forcément, et voilà, on est un petit groupe, mais de gens assez motivés. Alors le pacte pour les transitions, c'est au niveau national à la base, c'est lancé par le collectif pour la transition citoyenne, et qui est du coup un collectif qui regroupe plusieurs associations, qui en 2020 a lancé un ensemble de mesures, d'engagements plutôt, à faire signer aux différents candidat au municipal, 32, sur plein de thématiques, les mobilités, la démocratie, la gestion des déchets, etc. Et cet ensemble de mesures avait été construit, bien sûr, avec des associations qui sont expertes sur le sujet. Et l'idée était de faire signer ces engagements, et avec des niveaux un peu variables d'ambition, et qu'ensuite les collectifs, du coup, montés un peu partout sur le territoire, puissent faire le suivi de ces engagements, faire du plaidoyer pour ces engagements, et derrière, à la fin, faire le bilan objectif des réalisations des mairies et des métropoles. À mi-mandat, on a pu faire un premier bilan, où c'était assez... On va dire que c'était correct, mais c'était le mi-mandat. Du coup, forcément, on ne peut pas être objectif complètement là-dessus, sur est-ce que c'est arrivé à réalisation ou pas. Mais là, on n'a pas encore sorti le bilan parce qu'on a eu des soucis niveau force militante. C'est toujours un peu difficile. C'est plus facile de faire signer des engagements que de faire le suivi derrière. Et du coup, on n'a pas encore sorti le bilan, mais on a clairement des engagements qui étaient pris, qui étaient extrêmement ambitieux, mais qui ne correspondaient pas forcément aux possibilités de réalisation de la ville et de la métropole, parce qu'on est quand même sur deux échelons différents et des compétences différentes. Et il y a des choses qui n'ont pas pu être réalisées sur l'artificialisation, par exemple.
Et sur ce qui a été réalisé, est-ce qu'il y a, je sais pas, une mesure un peu phare, un engagement qui avait été pris, qui a été donné à bien?
Bah, on peut dire sur les transports vélos, par exemple, il y a quand même beaucoup plus de pistes cyclables qui ont été réalisées. C'est quand même un des gros sujets à Rennes. On n'est vraiment pas à se plaindre. Alors, en 2020, à Rennes, on était trois associations, OE Rivière de Bretagne, Zero Waste Pays de Rennes et Alternatiba. Après, sur le suivi, on était plutôt que nous. Après, on a été rejoint par Oxfam. Et là, du coup, pour la nouvelle mouture, on va dire, pour 2026, on est huit associations, dont France Nature Environnement, Alternatiba, Attaque, Terre de Liens, Agrobio, Zero Waste, Oxfam.
Des acteurs auxquels s'ajoutent, pour ne pas les oublier, le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest et Rayon d'Action, une association branchée vélo.
Alors là, on est sur plus d'engagement. Après, du coup, c'est forcément, comme là, on est plus d'associations, ça représente plus de combats. Mais ça reste toujours la même logique de plusieurs thématiques. Après, on est sur des engagements beaucoup plus précis, notamment sur l'artificialisation, sur les mobilités, avec par exemple des mesures assez fortes qui pour nous sont assez clivantes pour justement déterminer quelle liste s'engage à quoi, sur la gratuité des transports notamment, par exemple, ou aussi sur la fin de plusieurs projets d'artificialisation sur Via Silva, sur la ZAC du Hill, où on demande des engagements de, par exemple, au lieu d'avoir une zéro artificialisation nette, une zéro artificialisation brute, et du coup ces engagements là on les a fait signer aux différentes listes candidates au premier tour.
Donc moi je m'appelle Pascal Lefebvre et je suis administrateur de Terre de Liens Bretagne. Alors Terre de Liens, c'est un mouvement, donc l'objectif c'est de faire pousser des fermes, et donc l'action de Terre de Liens, c'est d'acheter du foncier agricole pour installer des paysans bio, et nos ressources c'est l'actionnariat citoyen, c'est-à-dire que les citoyens achètent des actions, et ce qui nous permet d'avoir un capital et d'acheter des terres pour installer des paysans bio.
Que des citoyens, ça peut être des structures, des...
Alors, des collectivités, non. Les collectivités, on va plutôt être partenaire avec les collectivités. Donc ça, c'est des échanges qu'on peut avoir. On peut amener d'expertise en complément de ces actions d'acquisition. Actuellement, il y a plus de 400 fermes en France. Il y en a une soixantaine en Bretagne. Et l'année dernière, en 2025, on a acheté 8 fermes en Bretagne. En bio, donc ça, c'est et tout type de fermes. Hein, toutes les typologies, que ce soit élevage, on était plutôt sur le modèle agroécologique de polyculture, mais en fait c'est les porteurs de projets qui soumettent leurs projets personnels. Terre de Liens avait décidé à l'échelon national de s'impliquer dans la campagne municipale, et on avait porté un discours auprès des différents candidats nationalement avec 5 mesures phares, sachant qu'on considéra à juste titre que les élus avaient vraiment un pouvoir pour justement réimplanter des paysans dans les campagnes et apporter une alimentation saine aux citoyens. Donc la première mesure, c'était limiter la disparition des terres agricoles à travers la politique foncière. C'était favoriser l'implantation des paysans, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a perdu en 30 ans à peu près 80% des fermes en France. C'était assurer une alimentation saine et bio, préserver la ressource en eau et la sécurité alimentaire également, cinquième mesure. Et donc sur la base de cette campagne nationale, on s'est rencontré localement avec d'autres associations et on a décidé de se regrouper pour interpeller les listes rennaises.
Et
Sur Rennes, il y a déjà des démarches engagées, mais ce qui pourrait aller jusqu'au bout, c'est notamment pour ce que l'alimentation des collectivités, pour les écoles, les EHPAD, mettre en place 100% bio et 100% local. Donc ça, c'est une démarche qui peut être portée par les élus à travers l'achat public et l'organisation aussi de la production alimentaire sur leur territoire. Donc ils ont la main, ils peuvent aider et ils peuvent s'impliquer. Et c'est une première réponse des élus locaux pour avoir déjà des paysans dans les campagnes et puis une alimentation saine pour la population. Alors je pense qu'il y a des réticences, oui, peut-être, sûrement. Un peu de... Alors il y a de la logistique, hein, c'est sûr, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Hein, il y a des moyens à mettre en œuvre, mais il y a sans doute une... Peut-être que certains élus n'ont pas pris la mesure des enjeux. Ça fait partie des choix politiques. C'est pour ça qu'on voulait, nous, questionner toutes les listes rennaises pour justement voir ce qu'ils avaient vraiment comme intention. Mais sur d'autres territoires, effectivement, on sent que certains sont moins impliqués que d'autres. En revanche, des élus très impliqués ont réussi à en mettre en place du 100% bio dans toutes les cantines. Donc c'est possible.
Comme pour Alternativa, vous avez beaucoup de tiges. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un concours de tiges.
C'est incroyable ça.
Cardamome et sauce soja et du miel avec le chou rouge.
Finalement, on a quand même réussi à avoir 6 réponses sur l'ensemble des listes. Ils sont même venus une soirée chacun présenter en 3 minutes leurs intentions. Et avec signature, avec des commentaires sur les propositions qu'on avait faites. Donc je trouve que c'est plutôt constructif et il y avait une très bonne qualité de présentation. Ils s'étaient investis, ceux qui ont répondu en tout cas. En revanche, certaines n'ont pas souhaité répondre.
On n'a pas eu de réponse, ou alors des réponses négatives de la liste de droite Thomas Rousseau et aucune réponse de la liste de Charles Compagnon et Carole Gandon. Après, par contre, pareil que pour en 2020, on n'a pas contacté le RN. Après, la question s'est posée de est-ce qu'on contacte les Républicains. C'est un truc qui quand même nous a animé comme débat sur est-ce que la fenêtre de Overton a changé ou pas. Est-ce que maintenant la droite peut être considérée comme l'extrême droite? Et est-ce que du coup on applique les mêmes principes de, on va dire, de barrage républicain à la droite qu'à l'extrême droite? On a décidé quand même d'aller les voir, mais au final on a eu une réponse négative assez tardive. Et pour ce qui est de la liste de Charles Compagnon, on n'a eu aucune réponse, alors qu'on a fait énormément de relances publiques ou privées. Et ça, on trouve ça assez triste quand même de ne pas avoir ce genre de réponse. Qu'on a pu avoir en 2020, on a eu des réponses de toutes les listes candidates. Et ça, clairement, ça montre quand même que le contexte a changé.
Ce qui est intéressant, c'est que sur les listes de gauche, il y en a certaines qui ont répondu par la négative.
Oui, carrément. Bah, du coup, là et aussi, je pense que c'est parce qu'il y a eu plus de listes candidates qu'en 2020. Mais par exemple, le NPA révolutionnaire et la lutte ouvrière nous ont répondu qu'ils appréciaient énormément la démarche, que bien sûr ils comprenaient nos combats, ils les rejoignaient, mais par contre ils ne signeraient pas parce que eux, leur candidature s'inscrivait dans un processus un peu plus large que les municipales et le cadre légal d'un mandat d'élu local. Du coup, ce qu'on comprend carrément et qu'on rejoint pas mal de leurs combats et de leur prise de position. Après, nous, on pense que l'exercice reste intéressant, déjà pour montrer aussi que le contexte a changé et que les listes centristes, répondent pas aux associations, alors qu'on est quand même pas mal d'assos qui font cet exercice et qu'on veut utiliser cet outil d'engagement signé qui sont certes pas... Il n'y a pas de base légale si jamais les réalisations ne se font pas, mais qu'on pense que c'est un outil important pour nourrir nos luttes derrière pendant les 7 ans à venir. On essaie de décrire les niveaux d'engagement dans la mesure proposée. Les listes ne peuvent pas répondre uniquement oui, sans dire comment elles vont mettre en place la gratuité des transports, comment est-ce qu'elles vont enlever la précarité énergétique à Rennes. Mais elles doivent donner des justifications et qu'on puisse revérifier dans leur programme que en fait, cet engagement est effectivement là et que c'est pas juste un oui sur le principe, mais derrière, il n'y a rien. Et aussi, par rapport à 2020, on a plusieurs engagements métropolitains. Par exemple, sur les mobilités, sur la généralisation du coup des 30 km/h, en tout cas sur les zones restantes, ou bien sur la gratuité des transports aussi, qu'on peut considérer comme un truc métropolitain, et sur la gestion des terres agricoles aussi, qui clairement a plus de sens au niveau métropolitain qu'au niveau juste réno-rennais. Et aussi, par rapport au retour d'expérience qu'on peut avoir de 2020, on a eu énormément de mal à avoir des retours sur les engagements et les indicateurs qu'on a demandé à la majorité. On a mis comme engagement supplémentaire un rendu compte tous les un an, qui soit public aussi, parce qu'on pense que c'est important que ça soit public pour que aussi les citoyens et citoyennes puissent s'intéresser un peu plus à la politique locale, qui est un peu notre dada. Et ça, du coup, les listes sont engagées là-dessus aussi, et à co-construire aussi un peu ce comité de suivi un peu du pacte pour la transition. Après, elles se sont engagées, mais à ambition variable, on va dire. On a fait une analyse, on lit pas la même chose dans les différentes réponses sur des oui, mais il y a déjà des instances qui existent qui pourraient servir à ça. Pour nous, c'est pas forcément une réponse satisfaisante, parce que nous, on pense que ça mérite quelque chose de propre à l'exercice.
Vous avez eu l'impression que la question climatique, elle avait réussi à trouver une place dans la campagne de ces municipales ?
Je pense qu'il y avait clairement un truc où on attendait un peu, au niveau national, on attendait un peu les écolos au tournant. En 2020, il y a eu des grosses mairies qui ont été gagnées par les écolos, et du coup, tout le monde attendait, est-ce que les écolos vont se casser la gueule ? Est-ce que les gens n'ont plus envie de parler d'écologie ? Est-ce que le contexte géopolitique fait que c'est plus la priorité ? Clairement, ça n'a pas été le cas pour moi. Après, c'est mon analyse, donc voilà, faut la prendre avec des pincettes. Et par contre, sur les sujets d'écologie, je pense que contrairement à 2020, il y en a peut-être qui sont carrément tombés un peu, on va dire, dans le domaine public. En fait, c'est même plus considéré comme de l'écologie d'éteindre les éclairages publics à une certaine heure. C'est plutôt juste de la bonne gestion, la gestion plus saine des finances de la mairie. Mais après, il y a plein de choses où je pense qu'il y a des gros retours en arrière aussi et qui sont exploités par l'extrême droite. L'exemple, je pense, pour moi le plus, c'est Starek Nafo qui veut remettre des voitures sur les berges de la Seine, quoi. Et du coup, il y a des trucs un peu caricaturaux qui sont là. Mais sinon, l'écologie, ça reste toujours un sujet hyper important pour les gens, qui est peut-être pas assez retranscrit quand même dans les débats qu'il y a pu avoir dans les élections municipales, où on a plus parlé quand même de sécurité et de caméras de surveillance.
Peut-être un fait dont on a peu parlé sur le premier tour, c'est le taux d'abstention qui est très haut. Et je me demandais si un peu dans la galaxie Alternativa, il pouvait y avoir des regards différents sur la question du vote, et si on pouvait aujourd'hui être écolo et commencer à douter d'aller voter à certaines élections.
Ah ouais, carrément. Du coup, là, la position au niveau Alternativa nationale et les groupes locaux est assez différente. On est apartisan, par contre, ça c'est clair. On n'appellera pas à voter pour une liste ou pour une autre, mais on n'a pas tous la même sensibilité à l'intérêt de voter, le besoin hyper important d'appeler les gens à voter. En tout cas, notre position de collectif, c'est de ne pas appeler à voter, parce qu'on pense que les arguments sont entendables pour ne pas forcément aller voter, et qu'on peut voir bien les limites qu'il y a eu. On peut parler des législatives suite à la dissolution, où au final, le choix des urnes n'a pas été entendu. Donc clairement, ça peut faire douter. Et moi, en mon nom propre, moi, ça me fait douter sur l'intérêt de voter et à quel point c'est crucial. Après, c'est pas pour autant que je m'intéresse pas aux politiques locales, mais je pense qu'il y a tellement d'autres moments, espace où on peut agir, on peut avoir de l'intérêt, et la démocratie, ça se pratique pas uniquement par le vote, au contraire, c'est vraiment pour moi la forme la plus pauvre, on peut dire, de la démocratie, et là je parle en mon nom, mais et que ça se passe plus par des événements comme ça, ça passe par le Village des Possibles, du coup, qu'on organise. Alors, le Village des Possibles, c'est un événement qu'on fait quand on a la force de le faire, à Alternativa, du coup, c'est un village associatif avec des concerts, des conférences, des tables rondes, et cette année, c'est un peu différent, on essaie de lui donner une couleur un peu politique, au sens pas partisan du terme, avec quatre parcours, en fait, qui seront un ensemble de conférences, de stands à aller voir, etc. Un parcours sur la lutte contre l'extrême droite, un parcours sur la politique locale, un parcours sur l'interconnaissance entre les associations et comment est-ce que les associations peuvent travailler ensemble, et un parcours sur les alternatives face au système, parce qu'on utilise beaucoup le terme alternative, on va essayer de le définir, de le critiquer aussi et de montrer en quoi elles peuvent avoir un potentiel de changement important et de changement important du système. Et du coup, ça, c'est le 25 et 26 avril au MAI, c'est entrée gratuite, c'est pour tout public, et l'idée, c'est que tout le monde y trouve son compte et qu'on soit un peu tous ensemble.
Alors, très bien. Est-ce que vous voyez un grand gagnant dans les quiches?
Les quiches véganes, il n'y a pas de cruauté animale, donc pour moi, il n'y a que elle qui gagne.
Saviez-vous que les migrants étaient logés au Phuket? C'est que ma bite mesurait 40 cm.
Lol.
Code promo, plus porno. J'ai acheté un super robot, il s'appelle Alexa. Moi c'est Vulf du 9-3. Avez-vous vu la photo pas retouchée de Darmanin quand il est en maillot de bain? On dirait trop une éponge. Tout le monde suit ma chaîne pour être cool comme moi. Mais je suis encore seule ce soir et j'ai peur du noir.
Alexa, allume le
fois c'est vu le du 9-3. Tout le monde suit ma chaîne pour être cool comme moi, mais je suis encore seule ce soir et j'ai peur du noir. Record. Avez-vous vu la vidéo terrible qui se passe à Gaza et celle d'un rat ou laveur trop mignon qui vole une pizza?
Vers des terres sur Canal B, Radio Boa ou peut-être en podcast, notamment sur Deezer. À l'instant, un morceau bien rentre dedans, c'était Putaclic des Vulves Assassines, une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann Barbotin, le programmateur musical de la radio Canal B. Les Vulves Assassines, si vous êtes passé à côté, c'est ce groupe d'électro-punk rap lancé il y a plus de 10 ans maintenant et rendu célèbre par ce tube La Retraite, que vous avez peut-être entendu en manifestation. Le morceau que vous venez d'entendre, il sera lui à retrouver sur un album qui sort au mois d'avril, le 17, Vulcanae Rock'n'Rolla, c'est son titre. Et on retrouvera, tiens, le trio sur la scène du Jardin Moderne pour la ville de Rennes. Ce sera le 19 juin prochain, juste avant le début de l'été. Notez ça dans vos agendas. On arrive à la fin de l'émission, mais il nous reste quand même quelques minutes pour une recommandation. À chaque fois, ce sont des idées de nourriture pour votre cerveau, vos yeux, vos oreilles. Et aujourd'hui, un documentaire. On fait un petit pas de côté par rapport au sujet de l'émission, à savoir les élections municipales. Encore que, vous avez entendu, Terre de Liens, il y a des leviers d'action du côté des villes pour travailler sur le sujet agricole. Alors là, je vous conseille de regarder Veto de campagne. C'est un documentaire d'une heure qui est retrouvé sur France.tv dans le programme La France en vrai. C'est réalisé par Marianne Kerfridin, qui est une journaliste déjà passée sur les ondes de Canal B, qui a, entre autres choses, travaillé avec le média d'investigation breton Splan. Là, elle suit Amélie Jolivelle, 44 ans, fille d'éleveur et donc veto de campagne, comme le titre l'annonce. Chaque jour, Amélie parcourt une centaine de kilomètres dans la région de Châteaubriant, donc en Loire-Atlantique, pour aller soigner les bêtes directement dans les fermes. Urgence, notamment lors de vélage, d'ailleurs le film s'ouvre là-dessus, mais aussi suivi sanitaire. L'activité dans ce qu'on appelle la rurale, elle tourne à la fois autour de petits bobos et de grands problèmes et amène à évoquer eh bien, beaucoup de sujets de société. Se faire une place en tant que femme dans un milieu masculin, il est aussi question de l'engagement des éleveurs qui confient parfois leur détresse à Amélie, du peu de candidats pour prendre la relève. C'est en tout cas un portrait puissant que livre la journaliste, celui d'une femme engagée, lumineuse j'ai trouvé, et qui a trouvé sa place qu'elle continue d'occuper malgré les épreuves. Je vous laisse avec un extrait, ce sont en fait les derniers mots du film qui laissent aussi transparaître un intérêt pour l'enjeu climatique dans le secteur agricole pour cette vétérinaire, donc Amélie Jolivelle. C'est donc carrément vers des terres.
Les impacts des dérèglements climatiques dans nos régions, ils vont être sévères. Quelles espèces de fourrage mangeront nos vaches demain pour faire du lait ou de la viande? Voilà, j'ai pas les réponses. Par contre, contre, moi, je vais participer au game. Hein. Ça, c'est sûr qu'on y sera. Voilà, ça je sais.
C'était le 6e épisode de Vers des Terres, j'espère que ça vous a plu. Vers des Terres, c'est une émission réalisée bénévolement, écoutée chaque mois sur Canal B, Radio Boa et en podcast du côté de Deezer. On se retrouvera au mois d'avril, le vendredi 17, précisément à 13h pour la diffusion rennaise du côté de Canal B. D'ici là, prenez soin de vous, envers et contre tout. Bisous.